de saint Augustin. Et alors, il y a quelques textes que je voulais vous lire aussi, notamment à propos des manichéens. Alors déjà, l'autorité du trône apostolique. Alors, vous avez vu que le trône apostolique a été très gentil avec Augustin, puisqu'il a toujours dit « si vous ne comprenez pas quelque chose sur la grâce, lisez Augustin hein, ». Et ça, très rapidement. Mais alors voilà ce qu'écrivait justement le pape Cyrus en 385. Cyrus, c'est donc un pape qui est contemporain de saint Augustin. Il dit, l'apôtre Pierre en personne se survit dans l'évêque de Rome. Si le pape porte le poids de tous ceux qui ont besoin de son appui, il ne doute pas que le bienheureux apôtre Pierre ne porte avec lui et en lui ce poids formidable et qu'il ne protège celui qui est l'héritier de son administration, c'est-à-dire investi de devoirs et de droits que l'évêque du siège apostolique en tant que tel n'a pas en commun avec les autres évêques. Alors ça, c'est pour... c'est parce que les hérétiques cherchaient toujours à avoir une sorte d'évêque à Rome pour prétendre au droit, en quelque sorte, d'être à la tête de toutes les églises, puisque c'est la capitale. Et la réponse du pape Cyrus, c'est pas parce que c'est la capitale, mais c'est parce que c'est le lieu du martyre de Saint-Pierre. Et seuls les successeurs légitimes de Pierre peuvent prétendre, à ce moment-là, avoir ce droit qui va au-delà du droit des autres évêques. Vous voyez, comme ce que disait Cyrus ici. Et alors, comme on parlait des manichéens, je vous propose deux textes qui sont tirés d'un petit traité contre un manichéen, leur évêque, et puis un autre tiré d'une lettre d'Augustin. Sur le culte des martyrs, voilà ce qu'écrit Augustin. Le peuple chrétien rassemblé célèbre avec une religieuse solennité les mémoires des martyrs afin d'exciter à les imiter et aussi pour être associé à leurs mérites et secouru par leurs prières. Cependant, si nous honorons les martyrs, nous n'élevons des autels à aucun d'eux. En effet, quel évêque montant à l'autel dans les lieux où les corps des saints sont ensevelis a-t-il jamais dit « Nous offrons à toi, Pierre ou Paul ou Cyprien ». Ce que l'on offre, on l'offre à Dieu qui a couronné les martyrs auprès des tombeaux de ceux qu'il a couronnés, afin que les lieux mêmes encouragent à une plus grande ferveur pour aiguiser la charité envers eux, que nous pouvons imiter, et envers lui, dont l'assistance nous permettra de le faire. Nous rendons aux martyrs le même culte d'affection et de solidarité que l'on rend en cette vie aux saints hommes de Dieu, dont nous constatons que le cœur est prêt à subir les mêmes souffrances pour la vérité de l'Évangile. Toutefois, nous honorons les martyrs avec une plus grande ferveur parce que celle-ci est plus assurée, maintenant qu'ils ont triomphé de tous les combats. Nous célébrons par une louange plus confiante ceux qui sont déjà victorieux, dans une vie plus heureuse, de préférence à ceux qui sont encore dans les luttes d'ici-bas. Mais le culte d'adoration est une obligation due proprement à la divinité. Nous le rendons et nous enseignons à le rendre à Dieu seul. Or, c'est de ce culte que relève l'oblation du sacrifice, et c'est pourquoi on taxe d'idolâtrie ceux qui vont jusqu'à rendre un tel culte aux idoles. En aucune manière, nous ne rendons un tel culte, ni nous ne prescrivons de le rendre à aucun martyr, à aucune âme sainte, à aucun ange. Et quiconque tomberait dans une telle erreur, on le reprend selon la saine doctrine, afin qu'il se corrige ou qu'il se tienne sur ses gardes. Ces saints eux-mêmes, n'étant que des hommes, refusent qu'on leur rende un tel culte, car ils savent qu'il est dû à Dieu seul. On l'a vu chez Paul et Barnabé, les Lycaoniens, bouleversés par les miracles qu'ils venaient d'accomplir, voulaient leur offrir des sacrifices comme à des dieux. Les deux apôtres, déchirant leurs vêtements, affirmèrent et persuadèrent qu'ils n'étaient pas des dieux et interdirent qu'on les traite ainsi. D'ailleurs, après, on leur donnait des coups de bâton, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce n'étaient pas des dieux. Donc, vous voyez, là, c'est un texte où Saint-Augustin remet à sa juste place le culte des martyrs, parce que justement, les manichéens accusaient les chrétiens d'idolâtrie à cause de ces cultes. Et alors, dans une lettre, il parle de ce que font les manichéens. Ceux que chez eux on appelle auditeurs, à auditores, hein, souvenons-nous que c'était ce que Augustin a été lui-même au début de sa vie, mangent de la viande, cultivent la terre et prennent une femme s'ils le désirent. Mais ceux qu'on appelle les élus, électi, ne se permettent rien de cela. Les auditeurs ploient le genou devant les élus, implorant d'eux tous, et non des seuls évêques, prêtres ou diacres, l'imposition des mains. Avec les élus, les auditeurs prient et adorent le soleil. Avec eux, ils jeûnent le dimanche. Avec eux, ils ajoutent foi à tous ces blasphèmes qui rendent détestables l'hérésie manichéenne. Négation de la naissance virginale du Christ, refus de croire véritable sa chair, mais affirmation d'une chair factice et par suite simulacre de la passion et rejet de la résurrection. Blasphème envers les patriarches et les prophètes. La loi donnée par le serviteur de Dieu, Moïse, ils disent qu'elle provient du prince des ténèbres. Ils affirment que sont de la substance de Dieu l'âme humaine et l'âme animale. Oui, ils font de ces âmes une portion de Dieu. Ils font combattre le Dieu bon et vrai avec la nation des ténèbres, se mêler une part de lui-même au principe des ténèbres, et cette part, ficelée et polluée dans le monde entier, voilà qu'elle se purifie en nourrissant les élus et en aboutissant dans la lune et le soleil. À défaut de cette purification, cette parcelle divine sera la fin des temps à tout jamais dans les fers. C'est dire qu'il se figure muable, corruptible et contaminable, ce Dieu dont une partie a pu être amenée à un si grand mal et qui ne peut se purifier tout entier, même à la fin du monde, de cette lamentable et impure promiscuité. Voilà. Donc, vous voyez, il s'est quand même bien réveillé de sa fascination pour les manichéens. Voilà, donc c'est des textes comme ça, avant d'aborder les deux grands traités qui sont le De Trinitate et le De Civitate Dei. Alors, donc j'ai d'autres passages. Alors, il faudrait aussi que j'ai encore plein d'autres textes à vous dire, notamment des lettres ou des choses comme ça. Donc, on va commencer par le De Trinitate. Alors, c'est un livre, enfin, c'est un ouvrage en 15 livres qui a été composé entre 399 et 412. Saint-Augustin n'était pas très satisfait du résultat et avait pourtant cherché à lire toute la littérature existant avant lui sur le sujet. Il l'explicite au début de son ouvrage. Et il va commencer. Alors, l'ouvrage se décompose en plusieurs parties. Les livres 1 à 4, c'est le témoignage de l'Écriture quant à l'unité et à la consubstantialité de la Trinité. Voilà, Dieu est un. Ensuite, de 5 à 7, ce sont la doctrine des relations caractéristiques qui différencient les personnes de la Trinité. Alors, Augustin prend des analogies pour essayer de faire comprendre comment les personnes s'articulent en quelque sorte dans l'unité de Dieu. Au livre 8, il parle de la connaissance de Dieu par la vérité, la bonté, la justice et l'amour, donc à partir des vertus. Ensuite, il va essayer de montrer comment nous sommes à l'image de la Trinité, donc l'image de la Trinité en l'homme, ce livre 9 à 14. C'est là qu'on a l'idée célèbre de la mémoire de la parole enfin de la pensée et de la parole. Et puis au livre 15, il y a une sorte de résumé sur les processions du Fils et du Saint-Esprit. Voilà un petit peu pour le plan. Alors, Augustin montre que, et ça sera repris dans la théologie dogmatique, que ad extra, hors de Dieu, eh bien, la Trinité agit toujours comme un seul principe, comme un principe, donc, par exemple, pour la création, c'est Dieu qui crée, c'est pas le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit. Mais ce sont les trois pris en un. Même chose pour les apparitions dans l'Ancien Testament. C'est peut-être plus anodin, mais voilà. Alors, ensuite, parlant de l'incarnation, il dit que le Fils n'assume pas simplement un homme, voilà, il ne se cache pas derrière un homme, mais il le devient réellement. Il n'est pas simplement, vous voyez, disons, pas impliqué dans l'humanité, il devient réellement homme. Donc, autre élément qui passera dans la théologie dogmatique. Il affirme que les personnes divines sont l'unique être divin. Donc, il n'y a pas il n'y a pas trois êtres divins. Il n'y en a qu'un seul, mais autodifférencié. Et leur différence ne vient pas de leur être, qui est égal et consubstantiel, mais de leur relation. Et ça, c'est aussi la base de toute la pensée trinitaire occidentale. Le Père, comme commencement et non engendré, le Fils, comme parole et image du Père, et l'Esprit Saint, comme grâce et comme amour. Il les présente comme ça. Et donc, ce qui les distingue en Dieu, finalement, c'est les relations d'opposition. Le Père n'est Père qu'en fonction du Fils, le Fils n'est Fils qu'en fonction du Père, et l'Esprit Saint n'est soufflé qu'en fonction de ceux qui soufflent, qui sont le Père et le Fils dans leur unité. Donc, voilà les bases que saint Augustin pose finalement pour la théologie trinitaire et qui vont être développés dans toute la théologie qui suit. Alors, il remarque que l'expression des pères cappadociens, donc vous savez, Basile, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, est fausse dans sa traduction littérale latine, puisque les Grecs avaient dit qu'il y avait une seule ousia, une seule essence, hein, mia ousia, et tres hypostaseis. Donc trois, alors nous on traduirait par trois personnes, hein, on le sait, on a fait notre catéchisme. Hein, donc une substance, trois personnes, mais si on traduit, on obtient une essence et trois substances, hein, parce que hypostasis en grec, c'est ce qui se tient sous, donc substantia, hein, trois substances. Alors, c'est là qu'il dit qu'il faut traduire hypostasis, l'hypostase, donc la ce que nous, on pressent comme étendue à l'intérieur de Dieu, par un autre terme, et il propose le terme persona, mais il n'est pas très content parce qu'il trouve que c'est pas très adapté, hein, parce que vous savez peut-être que persona, c'était le masque que portaient les acteurs pour accentuer une attitude de joie, de colère, puis aussi pour faire porter le nom, le son. Voilà. Et enfin, dit-il, l'homme, image de Dieu, Vous savez que l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dans la Genèse est aussi image de la Trinité. Alors il va essayer de chercher par tous les moyens en quoi on peut être image de la Trinité. Alors il trouve par exemple que le Père représente la mémoire en tant qu'il est le commencement sans commencement. Donc il est l'abîme en quelque sorte. Il est, on pourrait dire, le symbole de l'éternité de ce qui est sans commencement en Dieu. Donc, en nous, ça serait la mémoire. Et la mémoire, c'est le fond de l'âme, en quelque sorte, pour Augustin. Ensuite, le Fils, en tant qu'il est le Verbe, et qu'il est la pensée du Père, du coup, il est l'intelligence en nous, ce qui nous pousse à comprendre et à connaître. Et puis, le Saint-Esprit, eh bien, serait l'amour et la volonté, voilà, les autres facultés de l'âme. Alors, on a une analogie, donc l'analogie la plus célèbre de la Trinité, et on la retrouve sous la plume de Saint-Augustin. Alors, j'ai écrit un texte de la Cité de Dieu. Ah ben oui, c'est la Cité de Dieu, ça, on n'y est pas encore. Non, je n'avais pas pris le texte de la des Trinitatés. Alors, on va passer au De Trinitate, qui est beaucoup plus long, 22 livres, et qui est De Trinitate, De Civitate Dei, la cité de Dieu, ou la citoyenneté de Dieu, selon la traduction que propose, que reprend Ratzinger dans sa thèse.
La citoyenneté de Dieu.
Oui, c'est une traduction possible. Et alors le texte le plus connu de Civitate Dei, moi je vous le dis, comme ça vous l'aurez entendu. Alors c'est dans le chapitre 28, chapitre 28 du livre premier. Deux amours ont donc bâti deux cités, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, celle de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, celle du ciel. L'une se glorifie en soi et l'autre dans le Seigneur. L'une brigue la gloire des hommes et l'autre ne veut pour toute gloire que le témoignage de sa conscience. L'une marche la tête levée, toute bouffie d'orgueil, et l'autre dit à Dieu, « Vous êtes ma gloire et c'est vous qui me faites marcher la tête levée. » En l'une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur leur sujet. Vous voyez, c'est presque hégélien. Hein. Et en l'autre, les princes et les sujets s'assistent mutuellement, cela par leur bon gouvernement et ceci par leur obéissance. L'une aime sa propre force en la personne de ses souverains et l'autre dit à Dieu, « Seigneur, qui êtes ma vertu, je vous aimerai. » Vertu, virtus, hein, c'est la force aussi. Aussi les sages de l'une, vivant selon l'homme, n'ont cherché que les biens du corps ou de l'âme, et de tous les deux ensemble. Et si quelques-uns ont connu Dieu, ils ne lui ont point rendu l'hommage qui lui est dû, mais ils se sont perdus dans la vanité de leurs pensées et sont tombés dans l'erreur et l'aveuglement. C'est un passage de saint Paul, ça. En se disant sages, c'est-à-dire en se glorifiant de leur sagesse, ils sont devenus fous, et ont rendu l'honneur qui n'appartient qu'au Dieu incorruptible, à l'image de l'homme corruptible et à des figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents. Car ou bien ils ont porté les peuples à adorer les idoles, ou bien ils les ont suivis, aimant mieux rendre le culte souverain à la créature qu'au Créateur qui est béni dans tous les siècles. Dans l'autre cité, au contraire, il n'y a de sagesse que la piété qui fonde le culte légitime du vrai Dieu, et attend pour récompense dans la société des saints, c'est-à-dire des hommes et des anges, l'accomplissement de cette parole, Dieu tout en tous. Donc voilà, une belle opposition entre le monde selon l'homme dominé par sa concupiscence et la cité de Dieu, projet toujours à reprendre.